J'étais en train de lire les psaumes et la première fois que Dieu m'a parlé comme ça, il m'a dit, je ne veux pas que tu lises les psaumes et que tu les médites seulement, je veux que tu les pratiques. Et quand Dieu m'a parlé comme ça m'a beaucoup étonné parce que déjà quand je méditais la parole, j'étais vraiment édifié. Mais tout d'un coup, il rajoute quelque chose, il me dit, je veux que tu la pratiques. Et tout d'un coup, je n'ai pas pu lire les psaumes comme ça très rapidement, parce que chaque mot avait tout d'un coup une valeur que j'avais jamais vue. Par exemple, dans le psaume 1, il est dit, heureux l'homme. Et alors, je me suis dit, mais moi, j'aime la Bible. Moi, je la médite jour et nuit. Je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs. Donc, je suis un homme heureux. Et tout d'un coup, ce matin-là, je ne pouvais plus laisser place à autre chose qu'à être heureux en Dieu. Vous voyez, c'est ça, pratiquer la parole. C'est que tout d'un coup, elle a une telle autorité dans notre cœur qu'on ne peut plus, vivre autrement qu'en croyant. Et ce matin-là, j'ai cru que j'étais un homme heureux. Et c'est vrai que toute ma journée a changé. Et voilà comme Dieu m'a appris à non pas seulement lire ni méditer, mais encore pratiquer. Comme si toute parole qui sort de la bouche de Dieu est tellement importante que je ne peux pas passer dessus comme ça. Alors ça, c'était la première parole que Dieu m'a dit quand je lisais les psaumes, et la deuxième qui est venue un peu plus tard. Et ça m'a beaucoup aussi étonné. Il m'a dit, je veux que quand tu lis les psaumes, tu trouves ma personne, que tu trouves les noms par lesquels David m'a appelé. Alors, ça m'a aussi posé une question. Je lui ai dit, mais comment Dieu se nomme-t-il dans les psaumes? Comment David connaît-il ce Dieu-là? Alors, il y a plein de noms qui me sont venus à l'esprit, comme par exemple mon libérateur, mon berger, ma délivrance, mon rocher, ma forteresse, etc., etc. Donc, j'ai commencé à chercher tous les noms de Dieu, comme David les avait dans son cœur, comme David les avait compris. Et alors, je me suis dit, mais David, comment a-t-il compris tous ces noms que Dieu a? Alors, je me suis dit, mais David, c'est vrai qu'il a beaucoup souffert. David, il était très jeune quand il est devenu le gendre du roi, Saül. Il devait avoir à peu près 18 à 20 ans. Et quand il a régné sur Israël, il avait 40 ans. Donc il s'est passé 20 ans. Il s'est passé 20 ans entre le moment où il était berger, fidèle à Dieu, chantant ses louanges, aimant Dieu, étant fidèle, un jeune garçon, et le moment où il est devenu roi d'Israël. 20 ans. C'est là qu'il a appris à connaître Dieu. C'est là qu'il a appris à dire mon berger. C'est là qu'il a appris à dire le Dieu des délivrances. C'est là qu'il a appris à dire mon asile, ma tour forte, ma haute retraite. Et je peux vous dire, mes amis, mes frères et sœurs, que les noms de Dieu sont très, très importants et que nous pouvons les saisir. Nous pouvons vraiment expérimenter ces noms que David a connus et nous a livrés dans les psaumes. Alors, ce soir, je vais essayer de vous dire quelques-uns, parce que j'en ai compté à peu près 25, mais je ne peux pas parler de tous ces noms-là. On aurait besoin de plusieurs heures pour parler de ces noms-là. Je vais vous parler de quelques-uns et comment je le pratique. Voilà. Comment j'en suis arrivé à prendre pour moi, pour mon édification, ces noms merveilleux que David a découverts. Alors, le premier psaume que je vais lire, c'est le psaume 119, le verset 114. Tu es mon asile, mon bouclier, J'espère en ta promesse. Il y a un autre passage dans un autre psaume qui dit ceci, le psaume 71, verset 3. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher, ma forteresse. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Je me suis dit, mais au fait, c'est quoi un asile? Alors, véritablement en français, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai lu dans le dictionnaire une chose qui m'a vraiment étonné. L'asile, c'est un lieu inviolable. Alléluia. Un lieu inviolable où on pouvait se réfugier. Une personne poursuivie pouvait se réfugier. C'est un lieu où on peut être à l'abri du danger, à l'abri d'un besoin. C'est un lieu où on trouve la paix et le calme. C'est un lieu inviolable où mes fardeaux, alors ça c'est moi qui dis ça, c'est un lieu inviolable où mes fardeaux, mes craintes, mes besoins ne peuvent même plus m'atteindre. Qui peut violer le lieu de la présence de Dieu? Alors ce mot asile, l'Éternel est mon asile, il m'a beaucoup, beaucoup édifié. Qui parmi vous n'a aucun problème? Qui parmi vous n'a aucune crainte dans la vie? Ou qui parmi vous n'a aucun fardeau? Tous, autant que vous êtes là, vous avez des fardeaux, vous avez des craintes, vous avez des difficultés, vous pouvez tomber dans la maladie, vous pouvez tomber dans l'adversité. Il y a des gens qui deviennent vos ennemis dans le sein de votre propre famille. Vous pouvez avoir des gens qui ne pensent pas du bien de vous, etc., etc., etc. On peut allonger vraiment la liste. Et alors, donc ce mot asile, qu'est-ce qu'il est puissant alors? Parce que David a découvert que dans toutes ses difficultés, Dieu était ce lieu inviolable de la présence de Dieu où personne, ni quoi que ce soit, ne pouvait l'atteindre. Alors je me suis dit, mais donc, quand j'ai un problème, un fardeau, une angoisse, une crainte, une difficulté, un échec, je peux aller dans ce lieu et personne ne peut forcer la porte. Je serai complètement à l'abri, en sécurité et en paix et dans le calme par rapport à mes propres difficultés. C'est un niveau supérieur à la prière. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis marié. Je dis à ma femme, par exemple, j'ai besoin de quelque chose, d'une paire de chaussettes. Voilà, c'est une prière, c'est une demande. Je peux dire aussi à ma femme, j'aimerais bien que tu me fasses ça à manger. J'aime tellement, est-ce que tu peux me le faire? Oui, c'est encore une fois une prière, une demande. Mais ma relation avec ma femme ne se réduit pas à des demandes. Ma relation avec ma femme ne se réduit pas à une prière. C'est comme si on venait à Dieu et on dit, Seigneur, délivre-moi de mon angoisse. Seigneur, délivre-moi de cette injustice. Seigneur, délivre-moi de mes ennemis qui disent du mal, qui me calomnient injustement. Dernièrement, j'étais mis en justice pour une faute que j'ai pas commise. Je vous assure, je donne pas les détails. C'est terrible que quelqu'un porte plainte contre toi alors que t'as rien fait, que tu es innocent. C'est dur à vivre. Voilà. Et dans ce cas-là, mais où est ma sécurité? Je ne vais pas constamment prier Dieu en lui disant de me délivrer. Non. Je vais rentrer dans cet asile, je vais m'asseoir et je vais attendre ma délivrance. Dans le calme, la confiance que ce Dieu est puissant. Mais je suis assis dans ce lieu secret où j'attends que Dieu me délivre. Et je ne prie pas tous les jours pour être délivré. J'attends, je suis assis. Je suis dans cet asile où même mes besoins et mes angoisses n'ont même pas le droit d'entrer. Comprenez-vous comme c'est élevé comme position? Parce que dans le psaume 91, par exemple, il est dit que je suis à l'abri sous les ailes du Très-Haut. C'est la seule force de David. Pourtant, David était un roi. David était un guerrier. David avait des hommes, des armées, des hommes vaillants. Lisez Samuel, lisez les rois, vous verrez qu'il avait des hommes vaillants. Mais sa confiance n'était pas dans ces hommes vaillants. Sa confiance n'était pas dans les choses humaines. Sa confiance était en Dieu seul. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de richesses dans les psaumes. Il y a tellement de noms extraordinaires. Je vais tous vous les citer. Je ne vais pas tous vous les commenter, mais je vais tous vous les citer pour vous montrer comment David avait une relation intime avec Dieu. C'est ça notre force. La force du chrétien, ce n'est pas prier des heures. La force du chrétien, c'est se reposer en Dieu. Ce combat n'est pas pour vous. Ce combat est mon combat, a dit Dieu. Vous voyez? Il y a un repos pour les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prêchent le combat spirituel. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec toutes ces théories parce que je ne vois pas ça dans la parole. Je vois quelques exemples, oui, où on combat, oui, je vois. Mais je vois la majorité des exemples qui sont dans le repos et la paix. Voilà, il faut que l'enfant de Dieu ne soit pas une personne angoissée qui lutte tout le temps, mais une personne qui arrive à se reposer. Donc, quand je comprends la signification de ce lieu qui s'appelle asile, je comprends que personne, que ce soit une personne physique, que ce soit le diable, que ce soit un démon, que ce soit un ennemi, et que ce soit mon problème, que ce soit une personne de ma famille, etc., 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 une difficulté personnelle, personne ne peut entrer dans ce lieu où je me suis assis. J'aimerais que cette révélation pénètre dans vos cœurs, parce qu'il y a un grand, grand soulagement pour le peuple de Dieu de vivre dans ce sabbat. Dieu nous a créés pour le sabbat. Dieu ne nous a pas créés pour aller bosser. Dieu ne nous a pas créés pour nous lever très tôt le matin et nous coucher très tard le soir, épuisés. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Il nous avait créés pour profiter des fruits dans le jardin, pour être dans le repos, dans la communion avec un Dieu qui a pourvu à tout. J'aimerais dire aussi, vous poser la question, pourquoi Dieu a-t-il dit sans cesse dans la Bible, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Je suis le Dieu de. Savez-vous que Dieu prononce aussi vos noms? Et il dit, je suis le Dieu de Linda, le Dieu de Nassima, le Dieu Samira, le Dieu de Salira, le Dieu de Hamid, mon frère Hamid, mon frère bien-aimé Hamid. Il est le Dieu de. Pourquoi? Au lieu de s'appeler toujours le Très-Haut, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, pourquoi tout d'un coup il dit je suis le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham? Mais parce qu'il veut cette relation. Parce que cette relation est extrêmement importante pour nos vies, notre santé spirituelle, notre bonheur, parce que Dieu veut notre bonheur. Et quand il dit je suis le Dieu d'Abraham, tout d'un coup il s'identifie à Abraham dans ses échecs et dans ses victoires, dans sa foi et dans sa crainte. Et il dit, et au lieu de le juger, il dit, ben, viens, je te prends par la main et je suis ton Dieu. Je te garde. Pourquoi Dieu a-t-il laissé Abraham 25 ans dans la promesse qu'il aurait un fils, alors que Dieu l'aime tant, cet Abraham? Parce qu'il y a un enjeu, mes amis. Mes frères et sœurs, il y a un enjeu extrêmement important. Et il est décrit dans la Bible cet enjeu. L'enjeu, c'est que il fait de nous ses collaborateurs, ses amis, ses frères, ses fils, ses filles, ses proches. Je monte vers mon Père et votre Père. Ça, c'est la parole de Jésus. Je monte vers mon Père et votre Père. Le message de Jésus, le plus grand message de Jésus, à mon avis, pour les enfants de Dieu, c'est qu'il voulait nous faire découvrir que nous avons un vrai Père. Pas théorique, un vrai Père, un papa. Donc, il a sans cesse prêché aux Juifs, à ses apôtres, que Dieu, c'est notre Père. Comment leur a-t-il appris à prier ? Notre Père. Il a commencé par ça. Notre Père qui est aux cieux. Vous voyez, ça, c'était l'enseignement de Jésus. Jésus nous apprend ça. Et David, dans toutes ses difficultés, nous a appris plein de choses sur Dieu. Alors, je vais en citer quelques-unes, là, maintenant. On a parlé de l'asile. Je voudrais parler maintenant de l'Éternel est ma lumière. Psaume 4, verset 6. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Écoutez bien, il parle de bonheur là. Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Le bonheur vient de la lumière de Dieu sur nous. La lumière de Dieu, c'est que toute chose devient claire, limpide, quant à la connaissance de qui est Dieu. Voilà, je commence vraiment à le connaître. Je passe d'abord par le salut, par la repentance, le salut. Je comprends que la Bible, c'est la vérité. Je commence à prier, à être fidèle aux réunions, à aimer mes frères. Mais en fait, si je comprends quelque chose, c'est parce que la lumière de Dieu est sur moi. C'est sa lumière qui m'éclaire. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière. Ma lumière. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu devient lumière pour moi. Il prend cette identité pour moi. Comme il a pris l'identité d'asile, comme il a pris l'identité de sauveur, ça tout le monde comprend. Seigneur, tout le monde comprend. Père, tout le monde comprend. Mais encore plus loin, il faut aller. L'Éternel est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je crainte ? Voilà ce que ça produit. Et c'est là que je voulais vous emmener. C'est que, quelque part, en connaissant qui est vraiment Dieu pour moi, dans ma difficulté, dans mes victoires, etc., eh bien, je commence à comprendre et je commence à vivre la paix. Pourquoi ? De qui aurais-je crainte ? J'ai même pas à craindre pour moi-même. C'est incroyable. Je n'ai même pas à avoir peur de moi-même. Je n'ai pas à avoir peur de mon mari, de ma femme, de mes enfants, de mes ennemis, de mon patron, de tout ce qui m'entoure. Bon ou mauvais, je n'ai pas besoin de craindre personne, ni aucune difficulté. De qui aurais-je crainte ? Je répète, de qui aurais-je crainte ? Voilà à quoi David a été amené pendant ses 20 ans. Ensuite, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Imaginez maintenant le mot soutien. Soutien, quand quelque chose soutient. Devant moi, il y a un verre. Je pose ma main là. Le verre est soutenu. Est-ce que le verre fait un effort ? Aucun effort. Est-ce que le verre peut dormir, à la limite ? Ben, bien sûr. Vas-y, dors tranquille, mon cher verre. Eh bien, toi, tu es son enfant, tu peux dormir tranquille. L'Éternel est le soutien, regardez ma main, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Il me soutient. Le verre ne fait absolument aucun effort. Je continue sur le psaume 36, verset 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Écoutez bien, par ta lumière, nous voyons la lumière. Souvent, je me suis dit, Seigneur, je t'en supplie que je ne me trompe pas dans ma vie chrétienne. Seigneur, je t'en supplie, j'ai pas envie de faire d'erreur et de prendre un mauvais chemin. Et Dieu me montre là que même le chemin que je prends sera éclairé par lui. Je ne peux pas me tromper. Il est ma lumière. Alléluia! Jean, t'es honnête? Tu veux connaître la vérité? Alors, t'inquiète pas, Jean. T'inquiète pas, c'est ta lumière sur ton chemin. Il y a un psaume qui dit aussi, il est ma lumière sur mes pas. Je ne sais plus exactement comment c'est dit. C'est-à-dire qu'il éclaire pas à pas mon chemin. 2 Samuel 22, verset 29. Oui, tu es ma lumière, ô Éternel. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Pouvons-nous passer dans les ténèbres? Oui. Que devons-nous faire dans les ténèbres? Nous asseoir. Et attendre la lumière, la seule lumière. On n'a pas besoin de lutter contre les ténèbres. Il n'y a pas besoin de se débattre avec angoisse. Pourquoi suis-je dans les ténèbres? Pourquoi je vis cette situation? Pas besoin, mes frères et sœurs, pas besoin. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu éclaires mes ténèbres. Quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Job. Quand sa lumière me guidait dans les ténèbres. Alléluia, les ténèbres. C'est pas important, les ténèbres. Bien sûr, aujourd'hui, je ris. Aujourd'hui, je suis souriant. Vous voyez mon visage. Mais quand je suis dans les ténèbres, que dois-je faire? Eh bien, je dois fermer les yeux et je dis dans mon cœur, Seigneur, je suis dans les ténèbres. Je vais m'asseoir. Et ta lumière va arriver. Isaïe, chapitre 9, verset 2. C'est tout dans le même esprit. J'ai commencé par les psaumes parce que David vivait ça. Mais toute la Bible est remplie de la même révélation. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, des fois c'est nous, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Donc la lumière arrive. Frères et sœurs, riez, riez au nez du diable. Vraiment, je blague pas là. Moquez-vous de lui et de ses ténèbres. Il a éteint la lumière, il est en train de vous faire peur. Vous sentez plus rien, vous ne voyez plus rien. Vous êtes dans le noir et comme David le dit, dans l'ombre de la mort. C'est comme s'il y avait la mort. Assieds-toi, la lumière arrive. Alléluia. Une lumière resplendit. Michée, chapitre 7, verset 8. Et là, il parle des conflits avec nos ennemis, avec ceux qui nous veulent du mal. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est pas beau? En fait, on passe carrément dans un autre royaume. Et David connaissait bien ce royaume. Comment l'a-t-il connu dans la difficulté? Comment l'a-t-il expérimenté, mais à fond, parce qu'il avait des ennemis? 20 ans, Saül l'a poursuivi et a voulu sa mort. Et pendant toutes ces années, il a appris jour après jour tous ces merveilleux attributs de Dieu. Et effectivement, la lumière est arrivée pour lui. Parce que le peuple est venu le voir et lui a dit, veux-tu être notre roi? Ben oui, je veux être votre roi. La lumière est arrivée. Jésus parla de nouveau, Jean chapitre 8, et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, la seule attitude qui nous permet d'entrer dans ce royaume-là, c'est la foi. Et c'est pour ça que Dieu a commencé à me dire, Jean, je veux que tu pratiques les psaumes. Alors j'ai commencé à pratiquer chaque mot des psaumes. Et dès qu'il y avait un mot qui me venait comme ça dans l'esprit, je m'arrêtais dessus. Et j'ai passé des semaines sur une seule phrase. Une seule phrase. Ça me suffisait. tant que je n'avais pas compris et pratiqué cette phrase jusqu'au bout, que je ne l'avais pas comprise, que sa lumière n'était pas arrivée en moi, je restais sur cette phrase des psaumes. Et je vous assure qu'il y a une grande, grande bénédiction à vivre comme ça dans ce royaume-là. Ce n'est pas un royaume fast-food. Ce n'est pas je mets un euro et j'ai mon coca. On dit, on commande et dans l'instant qui suit, ça y est, on a notre hamburger. C'est pas un royaume comme ça. C'est un royaume où Dieu nous apprend la persévérance, la fidélité, la foi, l'amour. Et il a raison le Seigneur. C'est comme ça qu'il va former ses rois et ses sacrificateurs, ses disciples, ses apôtres, ses serviteurs. C'est comme ça qu'il va les former. Il ne peut pas les former autrement. Et je vais vous lire maintenant d'autres, sans vraiment tous les commenter, mais je vais vous lire d'autres noms. L'Éternel, ma force. Tu es faible, c'est pas un problème. Alléluia. T'es faible, alléluia, t'es faible. Seigneur, je suis faible, mais je te remercie. Tu es ma force. Seigneur, je ne veux pas penser que je dois être un chrétien fort, c'est pas la peine. Je veux être un chrétien qui se réfugie et qui trouve sa force en toi. Ça, c'est la bonne position. Ma haute retraite. Haute retraite. Alors, en général, les hautes retraites se trouvent au sommet des montagnes, se trouvent surtout en l'air, ou alors dans les pièces les plus hautes de votre maison. Et là, dans le secret, entre vous et Dieu, vous vous cachez de vos ennemis, quels qu'ils soient, et tout d'un coup, il y a la paix qui rentre. Parce que vous êtes monté quelque part dans le royaume de Dieu par la foi. Par la foi, vous êtes allé dans un lieu où vous trouvez cette paix divine. Et elle arrive très vite. Elle arrive très vite, cette paix, quand on va dans cette retraite. Mon refuge, refuge. Un refuge, c'est un lieu qui est à l'abri des tempêtes de neige, par exemple. Par exemple, le phare au bord de la mer, c'est un refuge. Vous avez vu comme c'est puissant un phare? Il est bâti sur le sommet de la falaise, ou pas loin de la mer. Il est bien ancré et la mer peut se jeter dessus, il résistera. Pendant des années et des siècles, la mer se jette sur le phare et ne l'atteint pas. Personne, en réalité, ne peut vous atteindre quand votre retraite, votre refuge est en Dieu. Si maintenant je suis dans la montagne, perdu dans une tempête de neige, et que on est à 2000, 3000 mètres, il n'y a pas une âme qui vive là-haut, et que vous trouvez un refuge avec un morceau de bois, vous chauffez, ça y est, vous êtes sauvé. Et pourtant, la tempête, elle dure, elle dure, elle dure. Mais vous ne craignez plus rien. C'est un refuge. Une tour forte. Une tour forte. Alors ça, je voudrais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Psaume 61, verset 3. Une tour forte, c'est une tour qui est dressée face à une armée. Voilà le contexte. Une armée envahit le pays, envahit la ville, et vous êtes en haut d'une tour fortifiée. Elle est tellement épaisse, elle est tellement haute que personne ne peut vous atteindre. Aucun ennemi. Aucun ennemi. Le diable ne peut rien faire. Parce que c'est lui-même la tour forte. Ce n'est pas une tour forte. C'est l'Éternel et ma tour. Et donc, alors, vous êtes là, au sommet de la tour, et en fait, vous pouvez très bien rigoler, parce que l'armée est en bas, ils essaient de vous atteindre, mais c'est impossible pour eux. Voilà, donc c'est une position où la joie, elle peut rentrer dans le cœur, la paix est là, la sécurité est là, j'attends. L'armée va bientôt s'épuiser et retournera d'où elle vient. Ça, c'est la véritable attitude en face du diable. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, le diable ne supporte pas quand on ne fait pas cas de lui. Le diable n'aime pas, il veut avoir de l'importance. Il veut avoir de la valeur. Il veut qu'on reconnaisse son autorité. En étendant sur cette tour, vous reconnaissez qu'il n'a aucune puissance. Et vous êtes tranquille et le diable se décourage. C'est ça l'attitude de foi dans le royaume de Dieu. Je vais continuer. Mon rocher, qui peut ébranler une montagne ou un gros rocher? Personne ne peut ébranler. Mon salut, c'est-à-dire celui qui me sauve. Ma forteresse, imprenable. Mon bouclier, chaque flèche du diable trouve un bouclier en face. C'est comme ça qu'on agit avec le diable. Imaginons, voilà, je donne un exemple. Vous êtes marié et votre conjoint, mari ou femme, est désagréable. Il est pessimiste, il est négatif, il critique, il vous juge, il est jamais content, il n'y a jamais rien qui est bien. Vous êtes découragé face à un homme comme ça, ou une femme comme ça. Eh bien, au moment où le diable utilise cet homme ou cette femme en train de tirer ses flèches contre votre âme, vous souffrez. Il y a une souffrance qui arrive. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'amour. On a besoin de compréhension, de foi, d'espérance. Et là, c'est tout le contraire. Eh bien, là, mes frères et sœurs, il faut savoir que le seul moyen d'échapper, c'est le bouclier. L'Éternel est mon bouclier. Alléluia. Et tout d'un coup, derrière ce bouclier, tu bénis l'autre. Tu dis, moi, cette flèche-là, elle vient du diable, elle vient même pas de mon mari ou de ma femme. Un jour, j'étais à table avec mon fils et ma femme. Et tout d'un coup, je parle, mais ils n'ont pas compris ce que je disais. Ils ont interprété ce que je disais. Et donc, tout d'un coup, tous les deux, ils m'ont jugé. Et j'étais mal, mais j'étais très mal, parce qu'ils n'avaient pas compris ma pensée. On finit le repas, on va à une réunion, et j'étais mal, et j'étais mal. J'arrivais pas à donner, j'arrivais pas à être joyeux. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais c'est une flèche du diable. Mais c'est pas moi, c'est pas ma femme, mais c'est pas mon fils qui m'ont tiré une flèche comme ça. C'est le diable lui-même. Et tout d'un coup, en disant, mais Seigneur, tu es mon bouclier en face de ce qui m'est arrivé, là, cette flèche-là. Eh ben, cette flèche-là, elle s'écrase sur mon bouclier et tu es mon bouclier. Parce que tu me connais, tu m'aimes, tu es mon bouclier. Mes frères et sœurs, immédiatement, j'étais libéré. Pourquoi? Parce que j'ai rendu au diable son intention de me nuire. Et moi, je lui ai présenté le Seigneur. Et je n'ai pas cru à cette flèche. Et cette flèche s'est écrasée. Le bouclier de la foi dont parle Paul. Eh bien, David le connaissait. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. C'est-à-dire que chaque flèche de l'ennemi atteint notre âme. Et chaque flèche va trouver en face le bouclier de la foi en Dieu. Mon appui, on en a parlé, le Dieu des délivrances. Psaume 68, verset 20. Le Dieu des délivrances. Il s'appelle Je suis le Dieu des délivrances. C'est-à-dire que toute délivrance dans ma vie ou dans ta vie viendra de lui. Donc cool. Relax. On va attendre la délivrance. Vous êtes d'accord? On va attendre la délivrance. On va s'asseoir tranquillement. On va louer le Seigneur tranquillement et on va attendre ses délivrances. Un fleuve de vie. Un fleuve de vie. Un jour, j'étais en train de lire le psaume 46. C'était un matin. Et ce psaume, il y a une phrase qui m'a touché. Je vais vous la lire. Il est, verset 4, il est un fleuve dont les courants où les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Je n'arrivais pas à décrocher de ce verset. Je n'arrivais pas à décrocher. Pendant une semaine, je l'ai lu, tous les matins. Et tout d'un coup, j'ai compris. J'ai compris que dans ma vie, puisque je fais partie de la cité de Dieu, puisque je suis un enfant de Dieu et que je fais partie de l'Église, tout d'un coup, j'ai compris que le Saint-Esprit qui coulait du trône de Dieu se répandait dans chaque canot, vers chaque enfant de Dieu sur la terre qui fait partie de son Église. Et que ces courants d'eau alimentaient exactement selon nos besoins chaque enfant de Dieu, selon vraiment ses aspirations, ses désirs, ses affections, ses problèmes, etc. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Vous voyez, Dieu est un fleuve de vie. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai qu'à laisser couler. Finalement, j'ai qu'à le laisser couler en moi. Et tout d'un coup, j'étais dans une position de repos où je sentais que le fleuve de vie me pénétrait dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Oui, je l'ai même reçu pour mon corps. Parce que la santé, mes amis, d'où elle vient la santé? Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Et si lui est un fleuve de vie, pourquoi dans ce fleuve de vie n'y a-t-il pas la santé? C'est écrit dans Apocalypse 22. Au bord du fleuve, des arbres qui produisent des fruits et dont le feuillage reste vert. C'est la santé. La santé de l'enfant de Dieu. Donc ce fleuve de vie produit la santé. Et qui est ce fleuve de vie? C'est Dieu lui-même, puisque ça sort de son trône. Le fleuve de vie est devenu, pour moi, un nom de Dieu. Parce que c'est l'Esprit Saint. Ce fleuve de vie, c'est l'Esprit Saint qui coule en moi. Et je l'accepte chaque matin, qui me donne la santé à mon âme, la santé à mon esprit et la santé à mon corps. Je vais continuer. Un secours, mon berger, mon soutien, la source de la vie, mon libérateur, mon guide. J'ai toujours eu peur dans ma vie de me tromper. Vraiment, hein. Vraiment, j'ai toujours dit, Seigneur, je t'en supplie, garde-moi de me tromper. Et quand je lis mon guide, bah, pourquoi je prie alors? Puisqu'il va me guider tous les jours de ma vie. Mon guide, le guide de Jean, celui qui prend Jean par la main, qui l'emmène sur tous les chemins où le Jean doit marcher. C'est tellement reposant de savoir qu'il est mon guide. J'ai rien à craindre. Je ne peux pas me tromper. Le père des orphelins. Le père des orphelins. S'il y a ici, dans cette assemblée, des gens qui ont perdu leurs parents, eh bien, il est ton père. Et vraiment, c'est extraordinaire que Dieu va compenser ce manque-là. Voilà, tu as perdu tes parents, tu as souffert dans ton âme, eh bien, Dieu, c'est ton père. Il dit, comprends bien que je suis ton papa. Le défenseur des veuves, s'il y a des veuves parmi vous, il est votre défenseur. C'est-à-dire qu'il va s'opposer à tout ennemi. Il va se mettre entre vous et votre ennemi. Il va s'interposer. J'ai cité à peu près 25 noms que j'ai trouvé dans les psaumes et qui sont pour nous, pour chaque situation, vraiment un salut et vraiment la vie. Et apprendre à connaître Dieu de cette façon-là change toute notre vie parce qu'on ne devient plus, comme je disais tout à l'heure, des chrétiens fast-food ou des chrétiens exigeants ou des chrétiens qui ne font que demander, mais tout d'un coup, on connaît quelque chose. Et ce quelque chose nous construit tellement profondément qu'on devient inébranlable. La mer va se jeter sur le phare. La tempête va se déchaîner sur le refuge. Les armées vont se déchaîner sur les forteresses et sur les tours. Alléluia. Alléluia. Et je suis là, debout, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu me dise, allez, monte, Jean. Ça y est, monte. Alléluia. Voilà, j'ai à peu près exprimé ma pensée. Donc maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, nous tous là, c'est quand quelque chose nous atteint, moi ce que je vous conseille, hein, c'est de lire les psaumes. Vraiment, je vous le conseille. Parce que c'est une relation d'âme qui est décrite. L'âme et l'esprit de David en face de Dieu. Et ça nous apprend à avoir nous-mêmes cette relation avec Dieu. Et on commence à découvrir la personne qui est notre défenseur et qui ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Et à ce moment-là, la foi nous pousse dans un royaume inébranlable.